Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Nous nous retrouvons après une petite pause estivale pour continuer nos fantaisies halieutiques. Je suis le professeur Rico et je vous rappelle rapidement le principe de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins que nous allons joyeusement critiquer, mettre sur le grill, pour savoir si nous allons les ranger dans les catégories à fuir, nul, routinier, bon ou incontournable. Nous allons donc nous coltiner Les Dents de la Mer 4, La Revanche, un film de 1987 de Joseph Sargent, et L'Attaque du Requin à Trois Têtes, un film de 2015 de Christopher Olen Ray. Ça y est, mes vacances sont déjà gâchées. Bon, prêt à se jeter à l'eau.
Instinctively, man has always been drawn to the sea. Its beauty, its mystery, its secrets. But there is also a vague uncertainty, a sense of intrusion into an alien world, where man is unwelcome and completely at the mercy of the most terrifying predator on Earth. Man's deepest fear has risen again. Jaws, the revenge. This time, it's personal.
Bon, cette fois-ci, c'est personnel. Non, parce que Jaws 4, alias Jaws the Revenge, ça a été le dernier coup pour fermer le cercueil de la franchise Dents de la Mer. Pour enterrer définitivement le chef-d'œuvre de Spielberg sous un monceau de médiocrité. En attendant le reboot que les producteurs slash Dr. Frankenstein d'Hollywood nous promettent depuis 10 ans, et dont la sinistre silhouette commençait là à se profiler de plus en plus pour le début des années 2020. Alors, Les Dents de la Mer 4ème du nom, ça raconte quoi? Faisons un bref résumé si vous faites partie des quelques chanceux qui n'ont pas vu le film. Bruce, le grand blanc, est de retour. Enfin, quelqu'un de sa famille, hein, vu que le requin est censé mourir à chaque épisode. Swim hard with a vengeance. Le requin est bien décidé à s'en prendre spécifiquement à la famille du défunt chef Brody pour venger ses frères et sœurs des précédents opus. Il commence d'ailleurs par dévorer Sean, le plus jeune des fils Brody, qui était à son tour devenu officier de police, et qui était parti dégager un madrier coincé sous une des balises à cloche si emblématiques de la série dans le port d'Amity. Hélène Brody, terrassée par le chagrin, est réconfortée par son fils aîné Mike, qui exerce le métier de biologiste marin aux Bahamas, spécialisé dans l'étude des conques. Alors oui, ça existe, c'est même reconnu par l'université, si vous regardez bien, ça fait partie des formations sur Parcoursup. C'est à vous de choisir vos vœux avec soin et dans l'ordre précis pour obtenir votre stage aux Bahamas. Enfin, toujours est-il, c'est une profession qui apparaît un peu trop maritime aux yeux de la veuve Brody.
Je veux que tu t'éloignes de la mer.
Quoi?
Je ne veux plus que tu fasses ton horrible métier.
Mais tu ne parles pas sérieusement, maman.
Le plus sérieusement du monde.
Mais nous commençons à peine. Nous avons eu notre première subvention.
Je ne veux plus te voir dans l'eau, sur l'eau, près de l'eau.
Maman, non, 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 tu es bouleversée. Allez, allez, viens t'asseoir. Nous allons dîner.
Je ne veux plus qu'un seul membre de ma famille s'approche de l'eau. Jamais, jamais, jamais.
Mais sois raisonnable, maman. Tu ne peux pas croire ces histoires de bonnes femmes. Les requins ne choisissent pas leurs victimes.
Celui-là a choisi ton frère et il a tué ton père.
Papa est mort d'une crise cardiaque.
Il est mort de peur. C'est la peur qui l'a tué.
Mike invite alors sa mère chez lui pour qu'elle puisse soigner ses peurs et ses chagrins, utilisant cet argument massu. Les grands blancs, ça vit dans les mers froides, et l'eau est trop chaude aux Bahamas pour les requins. Ouais, bah ce serait mal connaître la ténacité d'un Carcharuno Carcharias, et la fainéantise d'un scénariste hollywoodien. Parce que Bruce, qui a probablement placé un tracker dans le sac à main d'Hélène, va se cogner 3000 km à la nage pour venir terroriser la petite famille Brody sous les tropiques. Voilà, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur 1h30 de film, il y a les 10 premières minutes qui sont prometteuses, ensuite c'est 1h d'ennui au milieu, et les 20 dernières minutes complètement grotesques qui font basculer dans le film dans le nanar le plus éhonté. Alors je préviens, je risque de spoiler comme un sale, mais le film atteint les sommets lors de son final apocalyptique absolument en roue libre. Ça lui a d'ailleurs valu une jolie chronique sur Nanarland. En parlant de roue libre, les anecdotes sur la production de ce truc montrent à quel point le film opportuniste a été tourné en dépit du bon sens. Il s'agit de relancer la franchise après les bons résultats au box-office du 3 4 ans plus tôt, mais les critiques n'ayant pas été tendres sur le côté cartoonesque du film, il a été décidé de faire tabula rasa du 3 et de faire une suite directe du 2 qui était plus sérieux. Donc on va essayer de faire revenir notamment le casting original. Et c'est mal parti. Parce que Roy Scheider, qui faisait le shérif Brody, les a joyeusement envoyés paître en déclarant que même Satan ne pourrait pas le contraindre à faire le film. Richard Dreyfuss, qui jouait le biologiste Hooper, a fini par décliner pour des raisons financières. Et Murray Hamilton, qui jouait le maire Larry Vaughan, est décédé juste avant le début du tournage. Alors, les producteurs se sont rabattus sur Lorraine Gary, qui interprétait l'épouse du chef Brody, et qui avait arrêté d'ailleurs le cinéma depuis 79, et Les Dents de la Mer 2. Ce sera sa dernière apparition au ciné, après elle se consacrera définitivement à sa famille. Le film est profondément idiot, avec son requin vengeur aux capacités limites surnaturelles. Et c'est pas très étonnant, parce que le premier script, qui sera d'ailleurs recyclé dans la novelisation du film, inclut carrément un prêtre vaudou, Papa Jacques, qui était censé vouloir se venger des Brody en contrôlant les requins. Ce qui explique aussi pourquoi la bande-annonce conçue en amont du film semble utiliser un sous-texte limite mystique sur le destin, les coïncidences, et il semblerait que quelque chose se trame derrière tous ces événements. Non, c'est juste le requin qui est en colère.
Il lui arrivera rien, Michael. Elle ne le trouvera pas, ce foutu requin, puisque nous, on n'en a pas été capables.
Mais lui, il la trouvera.
Qu'est-ce que tu veux dire, lui, il la trouvera?
Elle le savait qu'il viendrait.
Elle le savait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Elle vous en a parlé?
Oui, elle est convaincue. Elle a voulu me convaincre que le requin qui a tué Martin et Sean poursuit sa famille pour la détruire.
Non, tout de même pas de notre requin, hein.
Enfin, les errances du scénario semblent expliquer pourquoi les acteurs semblent souvent improviser leurs scènes au fur et à mesure, sans vraiment savoir ce qui mène l'histoire, souvent en mode remplissage aléatoire. La plupart des acteurs savent pas vraiment ce qu'ils font là, comme Mario Van Peebles, qui cabotine en biologiste à dreadlocks, qui balance petite vanne sur petite vanne en jouant les comic relief. Et puis, il y a surtout Michael Caine en Oggy, pilote roublard qui a plein de bons tuyaux sur ce qui se passe aux Bahamas. Faut avouer que pour l'acteur dans les années 80, tournait un peu dans n'importe quoi tant que c'était au soleil et qu'il touchait un bon chèque. Hein. D'ailleurs, il a déclaré sur ce film « Je l'ai jamais vu, il paraît qu'il est terrible, mais vous devriez voir la maison que j'ai fait construire avec le cachet, elle est géniale !» Le requin est une sorte de baudruche qui hurle caoutchouc par tous les pores de sa peau grisâtre, et le réalisateur Joseph Sargent n'hésite pas à nous le montrer sous tous les angles pour bien voir qu'il est raté. Un requin qui grogne et qui pousse des cris de fureur. C'est le même hurlement que j'ai repris pour le générique du podcast. Vous savez d'où ce son est tiré ? La Tom et Jerry. Sans blague, ils ont recyclé le son d'un dessin animé pour rendre le requin plus inquiétant. Et puis faut qu'on reparle de ce final, où le requin fait carrément un bond de 10 mètres pour s'empaler comme une bouse sur le mât d'artimon du bateau de nos héros. Avant d'exploser, comme ça, parce qu'Hollywood, parce que boum. C'était Michael Bay qui était aux effets spéciaux. Il y a visiblement plusieurs versions de la fin, une première plus réaliste, jugée insuffisamment spectaculaire par les producteurs, qui ont rajouté donc cette fameuse fin explosive qui finit d'achever littéralement et le requin et le film dans la plus grande hilarité.
Ça n'avait aucun sens, ça commençait à quoi ?
Il fallait qu'on le fasse ! C'était la seule solution !
Maman, tu n'aurais pas dû !
J'ai essayé de te le dire ! J'ai essayé !
Alors mon gaillard, la fiche de compétences scolo-cinématographique ou scolographique va être saignante. Originalité, insuffisamment acquis. L'idée du requin vengeur, elle est carrément piquée à Orca de Michael Anderson en 77. Et sans être un chef-d'œuvre, ce film était au moins nettement plus palpitant que ce que tu nous proposes. Histoire, non acquis. Non seulement ce que tu racontes n'est pas intéressant ni même palpitant, mais en plus tu le racontes mal. Personnage, insuffisamment acquis. On a beau avoir de bons comédiens, quand ceux-ci n'ont absolument rien à défendre et qu'en plus ils s'en foutent, le résultat est forcément pathétique à l'écran. Ambiance, insuffisamment acquis. On s'ennuie pendant une bonne partie du film, et il n'y a que la fin qui nous réveille en mode « Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Réalisation, insuffisamment acquis. Joseph Sargent, il a essentiellement bossé pour la télé en dehors de 2-3 petits films. Et ça se ressent dans un style qui est d'un classicisme assez terrible, voire, soyons honnêtes, qui est complètement pâteau et qui désamorce une bonne partie de la tension. Requin, insuffisamment acquis. Alors la qualité des requins mécaniques, ça a toujours été le problème des Dents de la Mer, mais là, dans ce cas-là, tu le montres pas. Ou très peu. Parce que ça se voit qu'il est moche, ça se voit que c'est une masse de caoutchouc qui flotte. Appréciation finale, 6 sur 20. Alors je rajouterai un petit point pour le côté nanar du film. Très clairement, ce film a eu sa place sur Nanarland et ne l'a pas volé, notamment par son final complètement what the fuck. Je rajouterai aussi un demi-point supplémentaire pour la musique de Michael Small, qui reprend le thème de John Williams, mais qui développe une musique bien agréable, en tout cas un cran au-dessus du film qu'il est censé illustrer. Mais je lui enlèverai quand même un point, parce qu'il a salopé la franchise de mon film préféré, qui s'en est jamais remis depuis. Ce qui nous fait tomber au final à 6,5 sur 20, Les Dents de la Mer 4, officiellement, tu es mauvais. Alors, dans la grande famille des franchises racoleuses avec des requins, je vais encore demander The Asylum, et je vais encore demander une suite foireuse avec l'attaque du requin à trois têtes.
We are so pleased that the Earth Pack has agreed to send you over here to study the garbage patch.
Amazing.
Every fourth or fifth specimen we pull from the ocean manifests a mutation. But check out this little guy. Thing is pissed.
How's it looking?
Something's spooking the mutations.
That's weird. Something big right off the shoreline.
Professor. Professor, look!
Holy hell.
We're now moving to stage two safety protocol. Complete lockdown.
The station was attacked by a giant three-headed shark. Can you help us?
L'attaque du requin à trois têtes. Alors, c'est l'histoire d'un requin, il a trois têtes et il mange des gens. Quoi, vous voulez un scénar en plus? C'est exigeant, hein. Chez les Asylum, mais ils sont pas aussi exigeants hein, quand il s'agit de faire un film. Bon, globalement, je vous résume le truc. Vous vous rappelez du continent de plastique là qui est en train de se former dans le Pacifique? Eh bien, il semblerait que cet endroit très particulier ait des propriétés assez rigolotes sur les animaux qui s'y trouvent. Ça rend les crabes plus agressifs, ils se mettent à sauter dans tous les sens et attaquer les poissons, les crevettes nagent à l'envers, les mollusques ont des gros yeux, et surtout, apparaît un requin à trois têtes. Celui-ci, après avoir boulotté quelques baigneurs de passage, s'en prend à la station scientifique Perséphone, qui était prévue pour surveiller ce vortex de plastique en formation, avec d'ailleurs les scientifiques les moins crédibles du monde. Les quelques survivants de la base s'emparent d'un bateau pour essayer à la fois de convaincre un monde incrédule de la réalité de la menace, mais aussi d'essayer de trouver un moyen de vaincre ce grand blanc à trois têtes.
Vous vous trompez de fréquence.
Vous parlez à un bateau de pêche. On s'en fiche, on a besoin d'aide de n'importe qui. Nous venons de
la station Perséphone près du vortex de déchets. La station est détruite. Il y a beaucoup de morts.
Aidez-nous.
Détruite. À vous.
Je m'appelle Ryan Bennett.
J'appelle du bateau immatriculation PS001.
La station a été attaquée
par un énorme requin à trois têtes. Il a détruit la station et tué tout le monde.
Tu sais quoi? Cette blague est excellente. Terminé.
Alors vous doutez bien que l'attaque du requin à trois têtes, c'est la suite de l'attaque du requin à deux têtes, qui était sortie en 2012 et qui était assez furieusement crétin. Il avait fait son petit effet, et comme chez The Asylum, on n'aime pas gaspiller une franchise prometteuse, hein, après les méga sharks et les Sharknado, eh bien on s'est dit que des requins à plusieurs têtes, ça pouvait être la nouvelle poule aux œufs d'or de la petite firme de Burbank. Et comme Safari continue à commander des films pour sa Shark Week, eh bien, en 2015, nous avons eu donc cette attaque du requin à trois têtes, qui, une fois de plus, est shootée par Christopher Hollenray, le fils du célèbre Z-maker Fred Hollenray. Alors Fredo, on aura sûrement l'occasion d'en reparler parce qu'il a lui-même fait des films de requins, c'est un scénariste, réalisateur, producteur, catcheur. Oui, il est aussi catcheur. Ce sont des films aussi définitifs que Star Slammer, La Prison des Étoiles, Alienator, L'Invasion des Cocons. Reprenons le flambeau familial, son fils Christopher est devenu lui aussi un cadre de vidéoclub. Depuis le début des années 2010, il aligne des Almighty Thor, des L'Attaque du Requin à deux têtes, Alerte Astéroïde, Mega Shark vs Colossus, la plupart du temps pour The Asylum. Ayant été élevé dans le sérail, il a bien compris le modèle de business. Hein. On tourne pas cher, on fait des effets chocs, la qualité du film viendra après. Si elle vient un jour. Bon alors, ce Three-Headed Shark Attack, qu'est-ce que ça vaut? C'est pas terrible, hein. Faut bien avouer que c'est tourné dans l'urgence, ce qui explique un paquet de faux raccords et d'incohérences scénaristiques et visuelles qui sont même gênantes, même pour un The Asylum, même pour un film de ce niveau. Quelque chose me dit qu'il a été terminé en quatrième vitesse pour tenir les délais et sortir en août 2015 pour la Shark Week de Sci-Fi.
J'ai compris ce qui lui arrive.
Qu'est-ce que c'est?
Je pense qu'il se noie dans les déchets du bateau.
Oui, et après?
J'imagine que ça le rend dingue.
Et s'il a détruit l'île et la station de recherche, ce bateau n'a aucune chance.
Pas une seule.
Bon, vous l'avez entendu au dialogue, il faut qu'on parle un petit peu des comédiens. Moi, vous me connaissez, hein, je suis pas du genre à critiquer, alors constructivement, hein, jamais méchamment. Mais là, ils sont nuls, mais nuls, on se croirait dans un film français. Alors, déjà, premier truc, c'est que toute ton équipe scientifique est interprétée par des anciennes Miss America, des mannequins, ou des acteurs qui ont eu un second rôle dans Alerte à Malibu. Attention, je veux pas dire que forcément les scientifiques doivent avoir l'air moche, hein, dévastés par la physique quantique. Non, non, non. C'est simplement que, en termes de crédibilité, je sais pas pourquoi on a un peu du mal à les prendre au sérieux. A commencer par l'actrice vedette, Karrueche Tran, un ancien mannequin qui joue littéralement comme une savate. On a bien cette bonne vieille fripouille de Danny Trejo pour relever un petit peu le niveau, sauf que même s'il est en gros sur l'affiche, il doit être présent montre en main 3 minutes à l'écran. Le temps quand même de combattre le requin à 3 têtes. À la machette. Sacré Danny. T'es quand même devenu le roi des cache-teneurs ces derniers temps. Mais l'attraction principale en termes de mauvais acting, ça reste quand même Rob Van Damme. RVD, c'est un catcheur. Chevronné, il a des années de carrière, il est plutôt bon sur le ring. Par contre, dès qu'il s'agit de jouer la comédie, oulala. Qu'il est pato, le gars. Il ne sait pas quoi faire de son corps, ce qui est d'autant plus étonnant pour un gars spécialisé en pirouette. Et surtout, il ne sait pas placer la moindre expression. J'ai connu des planches en bois qui rendaient mieux à l'écran. Faudrait aussi parler du scénario. Au bout de 10 minutes, il a compris que la logique n'avait plus rien à faire dans cette histoire, donc il se tire une balle dans le caisson et il fait n'importe quoi. Parce que le requin, au bout d'un moment, à force de manger des déchets, eh ben, il lui arrive des mutations génétiques incontrôlées et aléatoires. On lui coupe une tête, il y en a deux qui poussent façon Hydre de Lerne. Quand il fait pas des bonds de 10 mètres pour choper ses victimes, eh ben il va continuer sur la plage pour traquer ses proies. C'est n'importe quoi. C'est la méthode Asylum dans toute sa splendeur. Pas de moyens, pas de scénar, pas de problème. On joue la surenchère de scènes débiles, et tant pis s'il n'y a pas de budget, tant pis s'il n'y a pas de moyens. Si les effets spéciaux en images de synthèse sont moches et incrustés n'importe comment. Ouais, oh, ça le fait, ça bouge à l'écran, hein, les gens, ils demandent pas plus. D'ailleurs, dans le même style, la bande originale est complètement oubliable. Elle est signée Chris Cano et Chris Redenauer, deux des compositeurs les plus productifs de chez The Asylum. Ils ont déjà signé la quasi-totalité des bandes originales des Sharknado. Un dernier détail pour fermer le couvert sur le cercueil, qui veut bien montrer le jugement-voutisme général de cette histoire, mais aussi très certainement les délais de production très courts. L'action est censée se dérouler en plein milieu du Pacifique, même si ça a été tourné en Floride. Les personnages n'arrêtent pas de dire qu'ils sont au milieu de l'océan, isolés de tout, et pourtant, à 500 mètres, on voit la côte au fond, avec des maisons dessus et même un parc d'attractions à un moment. Je suis prêt à parier qu'ils n'ont pas eu le temps d'enlever en post-prod, et ils se sont dit « Ouais, ça va passer, c'est bon. C'est derrière, qu'est-ce que tu veux que les gens y regardent ?»
Si on peut arriver à le ramener vers le vortex, on pourra le tuer. Il aura tellement à manger qu'il deviendra complètement fou, et il se dévorera lui-même. À quelle vitesse va ce bateau ?
Assez vite, enfin, j'espère.
L'atoll était à quoi, 15-20 km du vortex ?
Ouais.
On a fait la moitié.
Allez, il est temps de noter tout ça et de se pencher sur les compétences colo-cinématographiques de l'attaque du requin à trois têtes. Originalité, insuffisamment acquis. Non seulement l'histoire bouffe à tous les râteliers, mais en plus le fait d'avoir un requin à trois têtes ne change pas grand-chose. C'est juste qu'il peut choper trois proies à la fois. Au final, rien de bien particulier. Histoire non acquis. Les péripéties s'enchaînent un peu n'importe comment, et comme les personnages en prennent beaucoup d'enjeux, on suit ça d'un œil distrait. Personnages, justement, insuffisamment acquis. Alors, à part Danny Trejo, qui fait toujours le taf, mais qu'on voit 3 minutes, tout le reste du casting, ce sont des endives molles, et au final, on a du mal à s'attacher à des caricatures sur pattes. Ambiance. En cours d'acquisition, finalement, c'est un peu le point fort du film, il se passe beaucoup de choses, et c'est suffisamment débile pour qu'on puisse rire du film, avec le film. Réalisation insuffisamment acquis. Alors, Christopher Wray est capable de faire de beaux plans de temps en temps, et puis à côté de ça, de le laisser passer des erreurs techniques, mais indignes d'un débutant. C'est quasi incroyable. Requin, insuffisamment acquis. Le requin, en image de synthèse assez moche, est un peu fait à la truelle. Et puis, c'est pas toujours très très bien intégré aux victimes, notamment. Ce qui nous donne un total de 6 sur 20, auquel j'ai ajouté un demi-point parce qu'il a réussi à me faire rigoler par moment. Mais bon, on est dans la production Calibre The Asylum, hein, c'est quand même pas de la très très grande qualité. Ce qui nous donne un total de 6,5 sur 20, c'est nul. Mais ça peut laisser passer l'après-midi. À noter au passage que le ventre de la bête va être fécond parce qu'on avait déjà eu le requin à 2 têtes. Ici, on a le requin à 3 têtes. Et puis, ils vont passer tout de suite à l'attaque du requin à 5 têtes. Vous comprendrez pourquoi ils ont sauté le 4 si vous voyez justement l'attaque du requin à 3 têtes. Et cette année devait sortir l'attaque du requin à 6 têtes, qui a été un petit peu repoussée pour la fin de l'année. The Asylum semble mettre plutôt le paquet sur le 6e opus de la série Sharknado. Et justement, il est temps d'aborder les films que nous allons voir lors de la prochaine émission. Alors ordinairement, je prendrai ma boîte à requins et je tirerai 2 films au sort, sauf que ce mois d'août 2018 voit la sortie de 2 films de requins quasiment coup sur coup. Vous vous doutez bien que je pouvais pas laisser passer l'actualité. Mercredi 22 août, En eau trouble, The Meg, de John Turteltaub, avec un mégalodon qui s'en prend à Jason Statham. Ou le contraire. En tout cas, l'équivalent d'une production Asylum avec 150 millions d'euros qui arrive sur grand écran. Et le 23 à 20h30, sur Sci-Fi France, Sharknado numéro 6, sorti 4 jours auparavant aux États-Unis, dont on nous promet que c'est bien le dernier de la série. L'ultime volet qui doit enfin conclure cette saga qui divise tant les amateurs de requins. En attendant, une petite recommandation, un podcast musical, Écoute ça, animé par Dame et Tom, qui se sont donné pour projet de faire découvrir tout un tas d'univers musicaux très différents, et qui cet été ont demandé à pas mal d'animateurs de podcasts de leur envoyer leurs morceaux préférés, pas toujours en lien d'ailleurs avec le sujet du podcast. J'ai moi-même participé à l'un de ces épisodes et je vous laisse découvrir ça. Signalons aussi en septembre la sortie de Bad Requin, Histoire de la Sharksploitation, un artbook de chez Huggin & Munin, d'Alexis Prévost, Claude Gaillard et Fred Pizzoferrato, qui revient sur la Sharksploitation que nous traitons ici avec une belle collection d'affiches et de documents publicitaires d'époque, accompagné en plus de l'effroyable Sharkenstein en DVD, une édition que j'attends avec impatience. Nous en reparlerons sûrement. Pour le reste, je vous rappelle le podcast Nanarland hein, sur le line-up Riviera Ferraille, et La Nuit Nanarland à venir le 22 septembre à 19h30 au Grand Rex à Paris. N'ayant pas par quatre chemins, si vous n'avez jamais assisté à une Nuit Nanarland, c'est clair, vous avez raté votre vie. Plus sérieusement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, The Ultimate Rico. Nous nous retrouvons très bientôt pour parler d'actualités cinématographiques squalesques. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner !